Yeah.
Couture.
Attendez-vous que vous ayez tout sauté un plomb.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Ouais.
Et Nick Cloutier.
Ouais, ouais.
Radio.
Radio.
X.
Ouais, ben WestJet, c'est pas réglé encore.
Compliqué, que, hein?
On a une entente de principe.
Pourtant, ça aurait été si simple de s'entendre juste avant. 48 heures avant, Pierre, puis on n'a pas de bordel, là.
Ben, sachant qu'ils doivent dédommager, ils vont perdre l'argent avec ça, là.
Ben.
Là, tu calcules, tu dis, bon, on est à 1% ou 2% d'entente avec nos employés. Ça vaut-tu vraiment le jeu de la chandelle?
D'aller en grève.
D'aller en grève, puis de...
Je la comprends pas. Surtout que ça s'est réglé même pas 24 heures après, là.
Ben, c'est ça. Je m'explique très mal comment on a négocié tout ça du côté de WestJet.
Mauvaise décision.
Parce que là, un, la marque prend une méchante débarque. Eux autres, ils ont acheté Sunwing. Donc, c'est Sunwing et WestJet qui pognent le dallo.
Bon, Sunwing, c'est déjà pas évident. Là. Quand t'as des problèmes, c'était déjà pas facile.
Là, tu dois dédommager. Il y a des compensations. Tu sais, il y a des monétairement, là, il y a des grosses sommes en jeu. D'ailleurs, on va ouvrir les lignes là-dessus.
Parfait.
Heures, voilà, il est là.
Oui.
Vas-y.
Chronique politique avec Rodolphe Osni.
Ah. Ah oui, hein?
Rodolphe, comment vas-tu?
Salut Pierre, bon retour, bonne journée.
Salut.
Bonjour la gang de Québec, content d'être de retour. Là, c'est fini les vacances de la construction. Là.
Yes, sir.
Ben oui. T'as eu des belles vacances, Rodolphe, tout a bien été.
Oui. Une petite pause d'une semaine, mais on a gardé un petit œil ouvert à ce qui s'est passé en juillet en politique avant d'entamer comme ça le mois d'août.
Oui, le mois d'août, très calme, là. D'ailleurs, c'est surprenant. On va rentrer en campagne électorale au Québec. On parle du 27 août possible. Si on faisait le tour des partis et les forces, les faiblesses peut-être?
Oui, ben écoute, c'est intéressant parce que si on commence par celui qui est en tête dans les sondages, le parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, ben, il a été en vacances la plupart du mois de juillet. On ne l'a pas beaucoup vu. Il a déposé ce fameux livre bleu juste avant la Saint-Jean et ensuite il s'est éclipsé pour des vacances. Honnêtement, à mon avis, c'était une très bonne décision de Paul Saint-Pierre Plamondon de prendre des vacances pour plusieurs éléments. Premièrement, parce que oui, ça va être exigeant, cette campagne électorale qui commence, oui, comme tu viens de le dire, Pierre, autour du 27 août, mais bon, on se le cache pas, elle a véritablement déjà commencé. Mieux vaut comme ça recharger les batteries, passer du temps en famille, mais surtout aussi se faire un tout petit peu oublier, parce que si on regardait la dernière semaine du mois de juin, puis la fin de session, on commençait à trouver qu'il était un peu sur les nerfs, notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon.
Pas été facile, donc, hein? Ouais, ça n'a pas été facile dans les dernières semaines. Là.
Oui, on le voyait, tu sais, il était un peu irrité en entrevue, puis tout ça et tout, donc mieux vaut avoir rechargé un tout petit peu les batteries et être plus, comment on va dire, un peu plus zen pour cette campagne électorale. Parce que oui, tous les feux des projecteurs ben, vont être sur lui, bien évidemment, vu qu'il est en haut dans les sondages. Puis c'est un tout petit peu, un peu une campagne électorale à lui de perdre, parce que ça fait comme ça plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, qu'il est en train de monter dans les sondages. On sait aussi qu'il a gagné comme ça chacune des élections partielles qu'il y a eu dans le passé. Donc la barre est haute pour M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Si on regarde un tout petit peu les nominations, ben, le Parti québécois tire un tout petit peu de l'arrière concernant les nominations. Je pense que les derniers chiffres qui circulaient, ils étaient autour de à peu près 60 candidats, un tout petit peu moins de 60 candidats sur maintenant 127. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de nominations qui sont en train d'avoir lieu aussi au Parti québécois. Donc, ce chiffre devrait comme ça augmenter. Puis, honnêtement, Pierre, puis tu sais que je sais que tu aimes l'économie. Moi, je commence à me poser la question, le message économique de Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout ce qu'on peut appeler un duo ou un trio économique, il va falloir que, plus tôt que tard, on commence à avoir des candidatures plus économiques, qu'on sache un tout petit peu, là, un futur ministre des Finances, par exemple, du Québec, ben, est-ce qu'il y a un ou deux noms de candidats comme ça qui circulent? Ce serait intéressant de voir ça, parce que c'est bien beau de faire des nominations, mais il faudrait aussi commencer à un tout petit peu avoir cette fameuse équipe. Je sais qu'on essaie tout le temps de comparer avec René Lévesque, les années 70, l'équipe du tonnerre. Mais disons que moi, du point de vue comme analyste, j'aimerais bien savoir un tout petit peu ce serait qui ce fameux duo ou trio économique qui va être mis de l'avant dans les prochaines semaines pour cette campagne électorale et possiblement un futur gouvernement du Parti québécois s'il remporte l'élection.
Il n'a pas écrit ça dans le livre bleu, Rodolphe?
Non, il n'y avait pas de nom encore dans les livres bleus concernant qui serait ministre de quoi.
Où est-il d'ailleurs, ce fameux livre?
Oui, ce fameux, ce gros livre, cette grosse bite. D'ailleurs, il est passé un tout petit peu sur le radar. J'ai comme l'impression que les partis politiques ont dit bon, ben, on va garder les chapitres qu'on aime, puis on va le ressortir un tout petit peu durant la campagne électorale. Parce qu'écoute, Pierre et Nick, on sait ça va être quoi la game. Là, on vient de parler du Parti québécois, mais on sait que la game maintenant, de maintenant jusqu'à l'élection du 5 octobre, chaque parti politique veut gagner ce qu'on appelle la bataille du jour, la bataille médiatique. Ça veut dire qu'on parle d'eux en bien, qu'on ne parle pas d'eux en mauvais et qu'ils arrivent comme ça à marquer des points. Donc, on peut commencer notre petite feuille en mettant des petits points. Qui a gagné les batailles médiatiques? Mais l'important, ce n'est pas de gagner la journée, c'est de gagner l'élection.
Ouais, Parti libéral du Québec, j'ai vu la sortie de milliards la semaine dernière, c'était pas fort.
Ben, écoute, j'ai quand même l'impression que c'est un mois de juillet à oublier pour le Parti libéral du Québec et son chef Charles Milliard. Je vous le dis franchement, on sait c'est quoi leur défi. Ils ont un problème de notoriété. Puis j'ai pas comme l'impression que le mois de juillet, oui, il a fait du terrain, oui, il a fait des nominations. Je regarde ses réseaux sociaux tous les jours, je regarde les annonces du Parti libéral du Québec, mais je me suis comme pas. Je regarde ça, puis je suis comme, est-ce que les gens connaissent mieux qui est Charles Milliard avec le mois de juillet? Je peux pas répondre oui à cette question. Il a fait une sorte de petite publicité en disant « Je suis là, où est Charles Milliard, je suis là ». Quand je l'ai vu, j'ai comme dit, ça faisait un tout petit peu « Où est Charlie ?» Puis oui, t'as raison, ils ont fait comme une sorte de petite annonce improvisée, rapide, devant le consulat
des États-Unis en disant qu'ils pourraient couper le courant aux Américains. Le lendemain, ça n'a pas pris de temps qu'ils sont revenus puis ils ont backtracké, là.
Ben, c'est aussi de dire « OK, on va se rapprocher de l'Ontario, on va faire plus de commerce intercanadien, le Québec pourrait même mener des missions commerciales puis que les autres provinces viennent avec le Québec. » Écoute, j'ai trouvé que c'était un peu léger en termes de premier ministre en devenir. Donc, écoute, ça a mal été. J'ai comme l'impression que le mois de juillet aussi, il y a eu cette candidature de Michel Savard d'Ongouin. Je sais pas si vous avez vu.
Lui, c'est un saucé, là. Lui, il mélangeait la gauche, la droite, les nazis, là.
Non, déjà en politique, quand tu as besoin d'utiliser les nazis, c'est rarement un bon signe. Alors, écoute, on était rendu là, surtout que jusqu'à 5 heures, là, ils l'avaient pas encore mis dehors. Finalement, ils l'ont mis dehors. Puis bon, surtout qu'il y a eu aussi quelques candidats qui ont flirté avec d'autres partis. Puis ensuite, il y a eu cette fameuse liste qui a été sortie de dire bon, ben on va montrer patte blanche. Tous ceux qui ont donné de l'argent à d'autres partis dans le passé, ben voici la liste. Vous n'avez pas besoin de sortir ça à tous les jours. Donc, écoute, disons que ça a été un mois de juillet très, très difficile. Puis, écoute, Pierre-Nic, on attend toujours qu'est-ce qui va se passer, cette fameuse épée Damoclès. Qu'est-ce qui se passe avec les Brownies, le DGEQ, Est-ce qu'on aura des surprises au mois d'août ou au mois de septembre à suivre?
Non, c'est ça. Bon, la CAQ, Mme Fréchette, elle a célébré ses 100 jours de façon très, très réseaux sociaux, là, mais ça a pas... moi, ça ne m'a pas convaincu, là.
Ben, Mme Fréchette a pris quand même une semaine de vacances. Là, elle est de retour. Oui, elle a essayé de pousser ce message des 100 jours de la CAQ. D'un autre côté, puis c'est Pascal Bérubé qui a sauté sur son téléphone, a dit « Attendez, c'est pas 100 jours. C'est pas 100 jours de Christine Fréchette, c'est 2800 jours de la CAQ. »
C'est très bon,
évidemment, les 8 ans au pouvoir. Donc, tu vois un tout petit peu, ça va être quoi la game? D'un côté, t'as Mme Fréchette qui essaie de faire oublier le bilan de la CAQ, qui essaie même de faire oublier même la brand, comme on appelle la marque de la CAQ, appelez ça Fréchette, équipe Fréchette, c'est son équipe, c'est ses candidats. Ça va être un tout petit peu ça, la dynamique, surtout que ça a été aussi un peu difficile pour Mme Fréchette. Il y a eu le départ de François Bonnardel, le départ de Jean Boulet, le départ de Mathieu Lacombe, elle qui a changé aussi sa circonscription, qui maintenant se présentera plus à Sanguinet, mais à Trois-Rivières. Il y a eu une bonne nouvelle, un tout petit peu. Martine Biron, finalement, a confirmé qu'elle va se représenter. On attend toujours une réponse concernant Nathalie Roy. Et on voit quand même que dans les sondages, elle fait encore partie de la game. Elle est encore dans les cartes, Madame Fréchette. Donc, écoute, elle a quand même pris un parti qui avait zéro siège, en tout cas, selon les projections. Ouais. Là, on n'est pas dans ce scénario-là. Mais est-ce que ça va être dur, la campagne électorale? Bien sûr que oui, parce que les adversaires vont lui rappeler tous les jours son bilan.
Est-ce que, d'après ton expérience, Rodolphe, Christine Fréchette et la CAQ pourraient réussir à aller chercher l'électorat qui envisageait de voter pour le Parti québécois, mais qui n'était pas souverainiste? Il y en avait beaucoup là, dans les derniers sondages qu'on a réalisés. Beaucoup de gens non indépendantistes qui semblaient vouloir se nicher vers le PQ, mais est-ce que Christine Fréchette pourrait les rapatrier avec elle?
C'est exactement la question. C'est de coaliser ce vote anti-PQ ou ce vote fédéraliste, autonomiste, ou en tout cas ce vote anti-référendum. C'est ça la game. Mmh. C'est pour ça que d'un côté, tu te dis, normalement, le plan de match du Parti libéral du Québec, c'est pas compliqué. Le Parti libéral, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir au Québec, puis c'est facile, c'est genre, on est parti de l'économie, puis on veut pas de référendum. Mais là, t'as quand même l'impression que Charles Milliard lève pas, donc c'est pour ça qu'il y a une chance pour Mme Fréchette Éric Duhaime, n'oublions pas Éric Duhaime.
Oui, PCQ, parlons-en, c'est ça,
d'aller chercher ce vote. Donc cette game-là, la game qui est en train de se jouer actuellement, c'est entre la CAQ, le PLQ et le PCQ, pour aller grignoter ce vote anti-référendum ou en disant « on veut pas de référendum ». Et oui, c'est ça qui va un tout petit peu jouer l'élection, parce que normalement, le plan de match, c'est la dernière semaine, le Parti libéral sort avant une élection puis dit « vous voulez pas de référendum, vous n'avez pas le choix, vous votez pour nous ». Ben actuellement, il y a encore une autre option. C'est l'équipe de Mme Fréchette.
Tu vois, la semaine dernière, j'ai eu un suspect avec des amis, OK? Il y avait un gars là-dedans, c'était un actuaire. Après ça, il y avait un rédacteur de discours dans un ministère. Puis il y avait deux gars de com qui travaillent dans des boîtes de communication et de relations publiques. Puis les deux gars de com me disaient, pour eux, là, la CAQ et Duhaime seront à surveiller.
Ben écoute, je suis tout à fait d'accord. Éric Duhaime, pourquoi? Parce que Éric Duhaime, puis on en a parlé en termes de, tu sais, gagner la journée médiatique. Éric Duhaime est bon pour réussir comme ça à mettre de l'avant des enjeux, à réussir à mettre ses partenaires, à dicter ce qu'on appelle le message du jour. Puis oui, Éric Duhaime ou le Parti conservateur peut essayer de grignoter ce vote anti-référendum ou en tout cas ce vote anti-PQ.
Ouais, donc changement là.
Ben c'est ça. Celui qui va dire « Hey, la CAQ, c'est la même chose qu'avant, ça n'a pas changé », puis que Charles Milliard ne fait pas le poids ou en tout cas n'a pas la notoriété. Donc oui, je pense que tu as tout à fait raison. C'est pour ça que quand tu regardes dans les sondages, ben tu vois un parti conservateur qui, dans certaines circonscriptions, peut aspirer gagner. Puis surtout, on en a déjà parlé, mais le fait que dans certaines circonscriptions, ça va être des luttes à 2, des luttes à 3, des luttes à 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de gagner à 40%. Tu peux gagner un siège à 24, 25, 26 % dans certains cas.
Oui, bien des gens me disaient aussi, des gens de gauche là, qui me disent, bien, on regarde aller les politiciens, puis le seul qui parle pour le monde ordinaire, c'est Éric Duhaime. Il parle de choses terre à terre, puis de baisser les taxes, puis les impôts, puis de redonner de l'argent dans les poches du monde.
Éric Duhaime a quand même un défi, puis il faut le dire, puis on en a parlé aussi dans le passé, c'est de se professionnaliser en termes de son parti. Ouais. Éric Duhaime, est-ce qu'il fait une bonne performance en tant que chef de parti? On va voir. Pour l'instant, oui, puis t'as raison, il met comme ça des enjeux. C'est lui qui a sonné l'alerte aussi concernant, regarde, le gouvernement dépense trop, puis garder le gaspillage, puis tout ce que vous voulez, même la taxe sur le carbone, par exemple, ce que Mme Fréchette a annoncé pour les agriculteurs.
Ouais.
Mais il faut faire attention qu'il n'y a pas 126 autres candidats qui mettent dans l'embarras M. Duhaime, puis c'est pour ça que le parti, un des défis, ça a été toujours de se professionnaliser. Ils ont réussi, puis il faut le souligner, au mois de juillet, ils ont réussi à aller chercher Sébastien Lépine, qui est un ancien organisateur de la CAQ de Bernard Drainville. Donc, est-ce que lui, c'est quand même intéressant de l'avoir, lui? Pourquoi? Parce qu'il a fait une campagne à la CAQ, il connaît les membres de la CAQ, il connaît les circonscriptions. Ça peut être intéressant en termes d'avoir une campagne où ils peuvent comme ça essayer de marquer des points. On va voir.
Ouais, QS maintenant.
Ouh là là. Écoute, en termes positifs, on va commencer par le positif, c'est eux qui ont le plus de candidats nominés pour l'instant. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Ils sont à peu près dans les 80, presque 90 candidats qui sont prêts à se présenter pour QS. La mauvaise nouvelle, c'est honnêtement, on ne les a pas vus non plus cet été, au mois de juillet, Mme Ruba-Gazal. Alors, c'est tout un défi, c'est pour, encore une fois, Mme Gazal d'exister sur l'échiquier, de réussir à amener des enjeux. Puis pour l'instant, ben, je n'ai pas l'impression qu'en termes de contenu non plus, on critique beaucoup Charles Milliard et le Parti libéral en disant qu'ils n'ont rien proposé. Ben, je ne suis pas capable non plus de te dire qu'est-ce qu'ils ont proposé, en tout cas, Québec solidaire.
Les épiceries, financées par le gouvernement.
Ben, le Costco, ouais, c'est ça. Faire des Costco gouvernementaux comme ça allait marcher. Donc, tu vois, un tout petit peu, c'est un tout petit peu ça. Puis même, la crise du logement, normalement, tu te dis Québec solidaire, il devrait marteler puis il devrait réussir à marquer des points sur la crise du logement. Donc, disons que pour l'instant, il y a beaucoup aussi de défis pour Mme Gazal. On verra aussi surtout sa performance en tant que débat. Ça peut aussi changer. Il peut avoir aussi quelque chose qui peut avoir un déclic. On a déjà vu dans le passé des Manon Massé ou d'autres qui ont réussi comme ça à s'illustrer lors de débats. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer, surtout pour Québec solidaire. Ou est-ce que Québec solidaire va rester un parti très montréalais? Il ne faut pas l'oublier. Christine Labrie ne se présente plus à Sherbrooke. Ça va être un très gros risque. Ils n'auraient pas réussi à garder le siège à Rouyn-Noranda. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Québec solidaire va juste rester? Puis surtout que Antoine Dionne Charest se présente pour le Parti libéral du Québec. Est-ce que lui va réussir à rafler aussi dans Verdun, à Montréal, un siège de Québec solidaire? Ça va être intéressant à voir. Puis Boulris, M. Boulris, notre fameux candidat qui continue à encaisser un chèque d'Ottawa, ben, est-ce qu'il va avoir de la chicane aussi? Est-ce qu'il va faire de l'ombre à Ruba Gazal? Ça va être intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui vont aussi taper à la porte de Boulris concernant cette campagne électorale.
De tous les partis là, dont on parle, le PQ, PLQ, PCQ, la CAQ, QS, tous les chefs jouent leur avenir aussi. Hein? Je pense, là, si le PQ ne livre pas, Paul Saint-Pierre-Plamondon, son avenir pourrait être compromis. Au PLQ, Millard, il n'y a pas de marge de manœuvre. À la CAQ, Fréchette, c'est pas capable, elle débarque. PCQ, Duhaime, c'est la dernière chance pour Duhaime. Puis QS, Ruba Gazal aussi.
Oui, écoute, je ne pourrais pas mieux dire que ça. Je ne crois pas que les chefs, s'ils ne gagnent pas ou en tout cas n'arrivent pas à faire une bonne performance. Éric Duhaime, là, il doit absolument réussir à gagner.
Il doit rentrer.
Ben, c'est ça, il doit rentrer, sinon c'est terminé. Ça, tu as tout à fait raison. Québec solidaire, ils sont un peu bizarres, donc peut-être qu'ils réussiront à la garder. Madame Fréchette, on verra aussi, est-ce qu'elle va réussir à gagner Trois-Rivières, là? On va voir, parce que oui, c'était Jean Boulet. On peut penser que oui, mais est-ce qu'ensuite, elle continuera comme chef de l'opposition à suivre? Est-ce qu'il y aura des Simon Jolin Barrette qui vont aussi souffler puis essayer de dire, ben « Hey, on reprend ce parti-là? »
Ben, Drainville aussi, si Drainville rentre dans Lévis, là.
Ben, exactement. On va voir si M. Drainville aussi, parce que sinon, ce sera la fin également à lui de sa carrière politique. Puis c'est sûr que Charles Milliard, s'il ne fait pas une bonne performance, il y en a d'autres, peut-être des André Fortin, qui se diront « Hey, c'est temps d'avoir un autre chef ».
Puis dans le cas de PSPP, lui, il était à 38 à un moment donné. Là, il est rendu à 30, 29, 28, ça descend. Là. Donc, c'est freiner la descente avant le début des élections aussi. Là.
Non, tu as tout à fait raison. Là, ça veut dire... mais aussi, de façon générale, là, c'est difficile maintenant. J'ai quand l'impression qu'on est passé à une époque politique où... comme ils disent en anglais, t'as seulement one kick of the can, c'est-à-dire t'as une fois, puis c'est pas qu'on te donne une deuxième chance. François Legault, il avait réussi à persévérer, mais il y en a d'autres, par exemple, Dominique Anglade, ça avait été rapide pour lui montrer la porte, par exemple.
Oui, ça n'a pas été long. Bon, pendant ce temps-là, au fédéral, on va avoir des élections partielles pendant la campagne électorale au Québec. Ça, c'est particulier
aussi.
C'est
bizarre, parce que, bon, déjà, il y a le move concernant Chicoutimi-Lefjord, d'avoir comme ça offert ce poste de sénateur à M. Martel, puis d'avoir comme ça une élection, en pleine élection, ça fait quand même un tout petit peu sourciller. Puis c'est quand même un gros test. Ça va être un gros test pour les trois partis. Ça veut dire, M. Carney, est-ce qu'il arrive à gagner ce siège? Le Bloc québécois, s'il ne gagne pas, ça va faire mal aussi encore à Yves-François Blanchet.
Oui.
Et honnêtement, moi, je ne pense pas que le Parti conservateur va réussir à gagner. Donc, ça va être comme ça, quelque chose qui va encore faire mal au leadership de M. Poilievre. On verra le résultat final dans Chicoutimi-Lefjord. Mais disons que pour les trois chefs, cette élection partielle dans Chicoutimi-Lefjord, ben, ça va être difficile. On verra, il y aura aussi... C'est bizarre, ils n'ont pas annoncé celle de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est aussi un peu bizarre qu'ils fassent Chicoutimi-Lefjord, mais pas l'élection partielle de Saint-Hyacinthe.
Oui, puis là, tu dis Bisbee qui continue à l'intérieur du Parti conservateur du Canada. Ça aide pas, ça non plus, là.
Non, c'est pour ça que je te dis, ça veut dire tout n'est pas réglé pour M. Poilievre. Des sondages encore qui sont pas très positifs. On voit que M. Carney continue, malgré le fait que... Tu regardes, là, puis ça, c'était une bonne chronique de Guillaume Saint-Pierre dans le Journal de Montréal. Monsieur Carney fait beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qu'il va devoir rendre des comptes. On l'a vu cet été juste sur le pont, par exemple, Gordie Howe. On l'a vu sur, encore une fois, les taxes numériques, etc.
Mm-hmm.
Mais pour l'instant, Monsieur Poilievre n'arrive pas à marquer des points. Au contraire, il pèse dans les sondages. Puis s'il y avait encore comme ça des défaites concernant des élections partielles, ben, d'un côté, ça solidifie encore plus la majorité de M. Carney. Puis, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le Bloc, mais il y a de la bisbille, oui, à l'intérieur du parti. Pas mal de ténors, dont Michel Rampeau, qui a écrit un long texte en anglais qui est très intéressant, qui dit que, écoute, c'est compliqué, mais surtout qu'on a peur qu'en fait, on ne gagnera plus, puis que le Parti libéral est le parti naturel de pouvoir, ben ça fait qu'on a arrêté de savoir comment gagner des élections.
Ben moi, je l'ai dit, le Poilievre, c'est moi pour moi, là, c'est terminé. Je veux dire, Parti conservateur du Canada, Poilievre, d'ici un an, il n'est plus là.
Moi, j'ai écrit dans Le Devoir, ma dernière chronique avant mes vacances, est-ce que les conservateurs sont condamnés à l'opposition? Je me pose véritablement la question.
Voilà. Pendant ce temps, Martin Cauchon, qui pourrait être nommé ambassadeur du Canada en Chine, selon le
Globe and Mail. Oui, rumeur du Globe and Mail ce matin que l'ancien ministre libéral, l'ancien ministre sous Jean Chrétien,
ancien propriétaire du journal Le Soleil ici à Québec, là.
Exactement, aussi ancien du comité Canada-Chine, qui serait peut-être possiblement un ambassadeur. On va voir. Ça fait longtemps que le Canada pense, est-ce qu'on devrait envoyer des ambassadeurs diplomatiques, je veux dire politiques, ou avoir des diplomates de carrière. On verra, ça va être quoi la décision de M. Carney. Mais en tout cas, on verra si M. Cochon devient... Moi, honnêtement, je préférais, je le dis tout à fait honnêtement, je préférais en Chine des députés, des ambassadeurs de carrière et non pas des ambassadeurs politiques, parce que je pense pas qu'on a ça comme relation avec la Chine.
Power Corporation, hein? Incroyable. Merci, Rodolphe. Toujours un plaisir.
À bientôt.
Salut. Bye.
Voilà. Martin Cochon, qui était propriétaire notamment du Soleil puis des journaux de l'ancien empire Jesca et qui ont fait faillite. Et là, maintenant, c'est une coopérative.
Ouais,
c'est reparti, là, mais ça n'a pas été un passage glorieux au monde des affaires. En passant, le fonds de pension est amputé de 20%.
Oui, on se rappelle.
Voilà. Mm-hmm. Bon, après la pause, on ouvre les lignes.
88-670-9098 au téléphone.
Ouais, le WestJet, oui. Mais là, je regarde, il y a une loi au Canada. Hein? Tu sais que tu peux faire une plainte. L'Office des transports du Canada, là, on dit que l'arriérage de plaintes dépasse les 100 000 plaintes.
Hey, ça... Quand est-ce pensez-vous être indemnisé?
Non, mais je veux dire,
voyons donc.
C'est rendu une joke au Canada. Les compagnies aériennes, on a réformé notamment la loi sur les indemnisations. Puis tu vois, il n'y a pas de problème de régler. Moi, écoute, avez-vous eu affaire avec l'Office des transports du Canada? On dit que ça prend 2 ans, 3 ans. Tu vas aux petites créances, peut-être tu as plus de chances de te faire rembourser.
Avez-vous des trucs, peut-être, pour que ça aille plus vite? C'est pas, là.
Des trucs?
C'est pas. Parce que là, mettons que t'as assumé, avant qu'ils te remboursent, mettons que t'as assumé un frais de vol, ou avant qu'ils te remboursent...
Ben, tu leur envoies une réclamation. Mais les autres vont dire, il y a ça. Puis là, tu t'en vas devant l'Office des transports du Canada 2-3 ans. Petite créance, c'est quoi le truc? Je sais pas. On doit-tu réformer ça? Moi, je regarde en Europe, c'est très clair, là. Il y a telle affaire, la compagnie est en retard de tel temps.
Plus de 100 000 demandes.
De réclamation.
Oui, c'est ça.
En arriérage.
Eh oui.
C'est 40-45 000 par année, des grosses années, là.
C'est épouvantable. Faut qu'ils traitent ça, là.
Ben, c'est pays du tiers-monde. Ça, tu dis, les compagnies aériennes font ce qu'elles veulent.
Ben...
Organisez-vous, les amis.
Tu sais, l'histoire, comme on le disait tantôt, l'histoire de la grève qui aurait pu être évitée avec un règlement qui aurait pu être réalisé 24 heures avant, puis on n'a pas de problème avec WestJet, là. On n'en parle pas, là.
Y a-tu des trucs? Avez-vous une plainte de déposer actuellement? Comptez-nous vos histoires.
Ouais.
On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.